Et le journal, c'est avec vous, Tara Chagall.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Comment commencer autrement ce journal que par « Je suis Charlie » après tant d'autres qui ont brandi leur pancarte noire, envoyé des milliers de SMS pour dire que oui, la France est en deuil, la liberté est attaquée, mais qu'il faut tout de même résister, continuer à vivre ensemble. Dans cette édition, nous verrons donc où en est l'enquête qui progresse rapidement. La chasse à l'homme, ou plutôt aux frères Kouachi, se concentre à Crépy-en-Valois dans l'Oise et du côté de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Nous ferons le point avec Florence Turme, nous verrons aussi quelle est l'itinéraire des deux tueurs présumés passés par la prison. Ils auraient un lien étroit avec le djihadisme. Une marche républicaine sera organisée dimanche prochain. C'est l'union sacrée en ce moment dans une France en deuil national. Mais la présence de Marine Le Pen et du Front National dans cette marche fait déjà débat. Elle dénonce son exclusion. Nous y revenons avec Frédéric Seyss. Dans cette édition, nous verrons aussi comment l'école parle de l'innommable aux enfants. Et nous aurons en ligne l'un des responsables de l'enseignement et de la formation des imams à la mosquée de Lyon. Nous rendrons également hommage à Bernard Maris avec Annabelle Grelier. Puis nous irons en Algérie et au Danemark comprendre comment le monde voit ce soir des attentats.
Adèle Vendrette, productrice des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Je voudrais vous parler du dessin de Luz qui était en une de Charlie Hebdo en novembre 2011, une semaine après l'attaque des locaux du journal. Parce que le dessin montre deux hommes. Celui de gauche porte une barbe et le chapeau de prière musulman. Celui de droite porte un t-shirt noir avec Charlie Hebdo écrit sur le torse et il a un crayon derrière l'oreille. Et les deux hommes s'embrassent, tellement goulûment qu'on voit de la bave qui coule de leurs lèvres, et au-dessus du dessin, on lit cette phrase « L'amour plus fort que la haine ». Pour moi, c'est la quintessence du dessin humoristique. On sourit en regardant le baiser improbable, et puis on réfléchit en lisant cet appel à l'amour, qui, il faut bien le dire, n'est pas ironique. Et j'aimerais bien qu'aujourd'hui, on puisse prendre cette phrase et ce dessin au sérieux. Parce que quand l'humour est menacé, l'intelligence l'est aussi. Et si les mots perdent leur sens, alors là, on aura vraiment perdu. Le rire de l'intelligence et l'intelligence du rire, c'est ce que nous dit ce dessin et c'est ce qu'il faudrait nous arriver à entendre aujourd'hui.
Voilà, merci Adèle Vendrette pour cet éditorial. Au lendemain donc du drame qui frappe la rédaction de Charlie Hebdo, la traque des deux principaux suspects a progressé, aussi extraordinaire que ça puisse paraître. Les frères Chérif et Saïd Kouachi ont été identifiés dès hier soir par la police grâce à la carte d'identité de Saïd, l'aîné des deux, carte qu'ils ont abandonnée ou perdue dans leur voiture, une Citroën C3 retrouvée porte de Pantin à Paris. Donc depuis, plusieurs perquisitions ont été menées, surtout les deux tueurs présumés ont été formellement repérés par le géant d'une station-service, c'était à Villers-Cotterêts. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Le GIGN, le RAID ont été mobilisés sur place. A-t-on plus de détails ce soir?
Oui, alors on peut dire que la traque continue, mais qu'elle se concentre depuis ce matin sur la Picardie, où le niveau d'alerte du plan Vigipirate a été relevé au seuil maximum, tout comme il l'est dans la région Île-de-France depuis hier, et ce depuis qu'un pompiste de Vaucienne, près de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, aurait permis de localiser les fuyards. Il dit avoir formellement reconnu deux hommes cagoulés à bord d'une Clio de couleur grise avec des armes visibles Kalachnikov et lance-roquettes. Les recherches donc se poursuivent actuellement avec de très importants moyens dans une zone comprise entre Crépy-en-Valois et Villers-Cotterêts. Les portes de Paris restent placées sous haute surveillance avec des forces de police lourdement armées. Il est quasi impossible donc pour les fuyards d'être revenus dans la capitale. Et des moyens exceptionnels sont également déployés sur la zone de recherche où l'on assiste à un véritable ballet d'hélicoptères. Pour la première fois de leur histoire également, les unités d'élite de la police et de la gendarmerie nationale, le RAID et le GIGN, sont déployées ensemble dans une action coordonnée. Les fuyards auraient abandonné leur voiture, mais les recherches risquent d'être compliquées dans un secteur forestier assez touffu et l'interpellation, je vous le rappelle, extrêmement délicate, les individus étant extrêmement dangereux.
Alors, il faut ajouter que 7 personnes de l'entourage, disent les policiers, deux shérifs et deux Saïd Kouachi, ont été placés en garde à vue après différentes perquisitions menées aujourd'hui et hier déjà à Reims, Charleville-Mézières, Pantin, Gennevilliers. On va revenir avec vous, Florent, sur le profil de ces deux frères. Ils ont 32 et 34 ans. On connaît surtout le plus jeune, Chérif Kouachi, qui depuis 10 ans flirte avec le djihadisme, puisqu'en 2004-2006, on sait qu'il a cherché à partir en Irak. C'était après l'intervention américaine dans ce pays. Il va même faire de la prison pour cela. Alors on va voir les étapes, les jalons, si on peut dire, de son parcours, Florence.
Oui, l'histoire de Chérif Kouachi, c'est d'abord l'itinéraire d'un jeune délinquant dans le quartier des Buttes-Chaumont. Petit trafic et vols en tout genre. Puis une rencontre à la mosquée Adawa de la rue de Tanger dans le 19e arrondissement parisien. Il croise un prédicateur de quartier à peine plus âgé que lui, Farid Mbagnetou. Nous sommes en 2003. 5 ans plus tard, il se retrouve avec lui sur le même banc des prévenus devant le tribunal correctionnel de Paris, poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Au procès de la filière dite des buts de Chaumont, on découvre un groupe de jeunes qui ont tenté de gagner l'Irak. Chérif Kouachi, lui, a été arrêté avant de monter dans l'avion pour Damas. La peur au ventre, plaide d'ailleurs son avocat, presque soulagé d'avoir été arrêté. Il va passer 18 mois en prison avant même d'être jugé et c'est à Fleury-Mérogis qu'il fait la connaissance de Jamal Begal, alias Abou Hamza, condamné pour un projet d'attentat contre l'ambassade des États-Unis à Paris. On va les retrouver tous les deux, ces hommes, en 2010 dans un même dossier, le projet d'évasion d'un islamiste du GIA, principal auteur de l'attentat du RER Musée d'Orsay. Chérif Kouachi sera d'abord mis en examen dans cette affaire avant de bénéficier d'un non-lieu. Alors depuis, il était bien sûr fiché par le renseignement intérieur, mais il avait visiblement réussi à se faire quelque peu oublier des services de lutte antiterroriste. Lui et son frère ont fait l'objet d'une surveillance, a précisé Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, mais il n'était pas actuellement sous le coup d'une quelconque procédure judiciaire. Il n'y avait pas d'éléments les concernant témoignant de l'imminence d'un attentat.
Merci beaucoup Florence Turm. Et puis on a appris tout à l'heure que la radio de l'organisation État islamique qualifie de héros les auteurs de l'attaque contre le journal de Charlie Hebdo. Des héros djihadistes ont tué 12 journalistes et blessé plus de 10 autres travaillant dans le journal Charlie Hebdo. Et cela pour venger le prophète Mahomet, fermez les guillemets. C'est donc ce qu'a indiqué le bulletin de cette radio. Alors évidemment, l'émotion domine encore ce soir après les 12 morts et les 11 blessés morts le crayon à la main en pleine conférence de rédaction alors qu'il fabriquait ce matériau irrévérencieux indispensable qu'est un journal satirique comme Charlie Hebdo. Le peuple, on le sait, est venu spontanément témoigner de sa solidarité dès hier, de son effroi aussi dans une centaine de villes, évidemment à Paris, 35 000 personnes au moins. Ce soir, à nouveau, Anne Hidalgo appelle à un rassemblement, en ce moment même, d'ailleurs place de la République, autour des élus du Conseil de Paris. La liberté fait partie de l'ADN de notre ville, a dit la maire de la capitale. Les drapeaux, vous le savez, sont en berne pour la première fois depuis le 11 septembre 2001. Une telle mesure n'avait pas été prise, et elle n'avait été prise auparavant, sous la Ve République, qu'au moment de la mort de Charles de Gaulle, de Georges Pompidou ou encore de François Mitterrand. C'est donc un moment de recueillement que les autorités ont voulu exceptionnel. Une minute de silence dans tous les services publics aujourd'hui à midi. Le glas qui a résonné à l'église Notre-Dame de Paris. La tour Eiffel qui va être éteinte tout à l'heure à 20h. Le mot « union sacrée » est dans toutes les bouches depuis hier. Bonsoir Frédéric Saïs.
Bonsoir Tara.
On va voir avec vous jusqu'où va cette union sacrée. Mais d'abord un mot du climat qui règne justement dans la capitale frappée par cet attentat.
Oui, c'est un sentiment très étrange quand on passe à côté des grands monuments touristiques et culturels, quand on parcourt les rues de Paris entre le quartier de l'Élysée, celui des ministères et les Champs-Élysées, des paysages connus, parfois familiers, où pourtant plus rien n'est vraiment comme d'habitude. Vous croisez d'abord près des bâtiments publics des policiers en gilets pare-balles munis d'armes automatiques. Les rues adjacentes à l'Élysée sont carrément coupées à la circulation depuis la mi-journée. Le balai des sirènes est incessant entre les déplacements des forces de l'ordre, les convois ministériels qui se rendent à telle ou telle réunion et puis évidemment une grande quantité de caméras et de micros à l'affût de déclarations du chef de l'État ou de l'un de ses ministres. C'était notamment le cas tout à l'heure à la préfecture de police de Paris qui est située juste en face de la cathédrale Notre-Dame. Sentiment étrange de voir au milieu de tout cela des touristes, principalement asiatiques ou européens, déambuler avec leur appareil photo, le visage crispé, interrogatif. Marco est venu de Gênes en Italie pour passer 2 jours de vacances à Paris.
Le peuple italien se sent très proche de vous dans ces moments. Hier, en suivant les journaux télévisés en Italie, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de compassion, de solidarité envers vous, les Français. Je pense que ce genre de choses ne devrait pas avoir lieu. Il faudrait réussir à les empêcher, à les prévenir. Certes, il faut reconnaître aussi que ce n'est pas facile, mais il faudrait quand même y arriver.
Et une foule mêlée de touristes et de Parisiens s'est recueillie sous la pluie silencieusement sur ce parvis de la cathédrale Notre-Dame pendant qu'à quelques mètres de là, au centre de contrôle de la préfecture de police, les services s'activaient pour retrouver les fuyards.
Alors Frédéric, je disais union sacrée dès aujourd'hui autour de François Hollande. Il a reçu les leaders des différentes formations politiques de l'Assemblée nationale, dont Nicolas Sarkozy, son prédécesseur qu'on n'avait plus vu à l'Élysée depuis sa défaite en mai 2012. Tout se prépare, notamment la grande manifestation républicaine de dimanche prochain. Elle a d'ailleurs été décalée d'un jour. C'est une manifestation qui suscite déjà des tensions et des frictions dans cette unité nationale.
Vous voyez quel contraste entre le début de cette journée et la fin d'après-midi. Ce matin, François Hollande a reçu longuement Nicolas Sarkozy dans son bureau. C'est la première fois qu'un ancien chef de l'État était ainsi reçu à l'Élysée par son successeur. Poignée de main grave et discours sur l'usage de cette expression unité nationale, indispensable selon les deux hommes. Alors il ne faut bien sûr pas idéaliser ces positions qui font figure de communication imposée juste après un drame. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs dès ce matin posé des conditions pour participer à la manifestation de dimanche. On va y revenir dans un instant. Mais ce soir, l'union nationale semble se disloquer. Deux déclarations il y a quelques minutes en attestent. Jean-Luc Mélenchon d'abord qui affirme qu'il ne reconnaît pas l'autorité de Manuel Valls pour organiser cette marche. Le leader du parti de gauche souhaite au contraire que la marche se fasse à l'appel des syndicats et des associations et que les partis se mettent en quelque sorte à leur disposition. Et puis il y a le nœud majeur dans l'organisation de ce rassemblement. Faut-il inviter ou non le Front National ? Tout le monde n'est pas d'accord à gauche où l'idée de cette marche avait jailli. Pour Julien Dray par exemple, au regard de l'histoire du Front National, il n'est pas question de l'inviter. À l'inverse, Olivier Faure, le porte-parole du groupe socialiste, estime que la marche rassemble avant tout des citoyens et qu'il ne faut donc pas faire d'exclusif. Devant ces positions, Marine Le Pen estime que son exclusion met fin à l'Union Nationale en excluant un parti qui représente un quart des Français, dit-elle. L'Union nationale est une vaste escroquerie politicienne. Le sujet divise aussi à droite. François Fillon, il y a quelques instants, s'est positionné contre l'exclusion du Front National. Du côté de Nicolas Sarkozy, on n'en sait pas vraiment plus. En début d'après-midi, son entourage avait signifié qu'il ne viendrait pas si la présidente du Front National y était. Ça a ensuite été démenti toujours par son entourage. Désormais, on sait qu'il soumet sa présence à des conditions de fermeté et de dignité sans que personne ne puisse vraiment expliquer ce que ces mots recouvrent. À préciser qu'il faut toutes ces petites querelles politiciennes interviennent, rappelons-le, un jour de deuil national.
Voilà, et puis Marine Le Pen qui, elle, dénonce clairement son exclusion de la marche républicaine prévue dimanche. Merci. Merci Frédéric Seyss. Un mot encore de la fusillade qui était survenue ce matin à Montrouge et qui n'aurait pas de lien avec l'attentat à Charlie Hebdo. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, policière municipale stagiaire, a été tuée ce matin. Un agent de la voirie très grièvement blessé. Ils intervenaient sur un accident de la route, mais peu après 8 heures, un homme porteur d'un gilet pare-balles et d'un fusil mitrailleur a fait feu avant de prendre la fuite à bord d'une Clio. C'est le parquet de Montrouge qui est saisi de l'enquête sans lien, donc a priori avec l'attentat d'hier. Comme vous le savez, une minute de silence a été observée dans les écoles, notamment avec cette difficulté, on va en parler longuement avec Hervé Gardette et ses invités tout à l'heure, de dire l'horreur terroriste aux enfants et de devoir aussi les aider à ne pas faire d'amalgame. Je vous propose d'entendre Catherine Rossignol, elle est professeure d'éducation civique au collège Rabelais de Meudon. C'est là que Célia Akiré l'a rencontrée.
Il fallait donner un petit peu de recul, expliquer, décrypter. Donc on a repris bien qu'est-ce qu'un islamiste, qu'est-ce qu'un terroriste. Il y a quand même une différence entre les deux. C'est pas un musulman, voilà. Il y a des terroristes aussi pour d'autres motifs. Voilà, j'aurais expliqué que des extrémistes, il y en avait dans toutes les religions. On donne d'autres exemples. Et puis, à la fin de la séance, je leur ai fait dessiner ce qu'ils voulaient, ce qui leur tenait au cœur, une image avec un slogan, avec une phrase, en leur demandant que ce soit un dessin qui évoquait plutôt la paix. Et puis ces dessins-là, on va tous les afficher en fin de journée ou demain. Voilà, je pense que ça leur permet de sortir leurs émotions. Certains ont eu peur, d'autres sortent d'émotions. Certains, c'est plus réfléchi que d'autres. On peut dire que les trois quarts des enfants, mais des enfants de 6e qui ont 11 ans, des enfants de 5e, ont vu les images de la vidéo avec... Alors, ils avaient l'air de dire pour certains qu'ils avaient vu des images au JT, donc qui étaient un peu où il n'y avait pas à la fin quand le policier se fait tuer froidement. Moi, j'aurais demandé ce qu'ils en pensaient. J'aurais fait remarquer que ça ressemblait un peu à ce qu'on voyait dans un film, quoi. On a l'impression de gens qui sont marqués par un jeu vidéo violent, par un film violent, et qui reproduisent des choses qu'on a vues. En tout cas, l'ennui avec ce genre de vidéos, et je pense que c'est pour ça qu'il faut les manier avec précaution, c'est que Il n'y en a pas beaucoup, mais on sent que certains, ça les séduit. Et c'est pour ça que nous, on doit revenir dessus, on doit rappeler les valeurs de la République. On a parlé de rassemblement républicain aussi, on a parlé de valeurs de la démocratie, liberté d'expression, liberté de la presse. Voilà. Ce sont des choses quand même un peu compliquées. Et moi, ce qui me fait plaisir, outre la réaction à chaud, c'est aussi de leur montrer que ce qu'ils apprennent toute l'année en éducation civique ou en histoire, ça sert aussi pour comprendre un événement comme ça.
Catherine Rossignol, qui est professeure d'éducation civique, je me tourne à présent vers le premier de nos invités, Hassen Taïbi. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de l'enseignement des affaires culturelles à la Grande Mosquée de Lyon. Vous êtes en duplex depuis les bureaux de notre local à Lyon. On va évoquer bien sûr les actes anti-musulmans qui ont été perpétrés depuis hier en France avec vous. Mais d'abord un mot de ce que vient de dire cette dame et de ce que vous-même vous dites peut-être ou vous allez dire aux fidèles qui se rendent à la mosquée ou aux imams qui vous appellent. Que leur dites-vous du drame qui est survenu hier ?
Bien sûr, en tant que musulman, je suis doublement indigné, doublement triste de ce qui s'est passé. Je suis déjà triste parce que je suis français. Donc nos concitoyens ont été tués lâchement assassinés. Voilà donc le premier volet. Après, en tant que musulman, ces criminels sans foi et loi ont prononcé des mots en faisant leurs actes, ces mots-là qui nous sont chers, hein, Dieu, le prophète, l'islam, et alors que nous sommes innocents de tout ça, c'est pas ça l'islam, et c'est pas ça ce que nous enseignons donc à la mosquée. Et d'ailleurs, ces gens-là ne fréquentent pas la mosquée, ils ne fréquentent pas les mosquées, ils fréquentent la rue, les prisons, les réseaux de trafic de drogue et d'armes, donc faut pas les compter sur le compte des fidèles et des musulmans.
Oui. Alors demain, justement, le CFCM demande aux imams de parler de tout ça dans les mosquées et aux musulmans en général de manifester dimanche. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui pour le culte français, pour le Conseil français musulman, je voulais dire, de s'exprimer véritablement?
Oui, bien sûr, il faut que les musulmans s'expriment, les imams, toutes les institutions musulmanes. Et d'ailleurs, on n'attend pas, nous, qu'il y ait de tels actes. On le fait au quotidien, chaque vendredi, l'imam. D'ailleurs, on a fêté, il y a une semaine, la naissance du prophète. Et notre imam, il a parlé pratiquement de ça. Le prophète n'était pas un tueur, n'était pas un violent. Au contraire, il prêchait l'amour et la tolérance. Il a parlé de ça la semaine dernière. Je pense qu'il va le rappeler, tout ça. Et la preuve, voilà ce qui se passe quand on ne connaît pas l'islam, quand on ne connaît pas le prophète, quand on n'étudie même pas ce qu'était le prophète, parce que ces gens-là sont ignorants, finalement.
Oui. Monsieur Taïbi, une question de Hervé Gardette qui est à mes côtés.
Oui, Hassen Taïbi, je discutais ce matin avec des étudiants, dont certains de confession musulmane, qui me disaient, mais on ne comprend pas pourquoi on demande aux musulmans de s'exprimer sur ces questions. Est-ce que c'est une question difficile à régler? C'est-à-dire, vous vous exprimez, et du coup, ça revient peut-être à dire que les musulmans aurait besoin de dire qu'ils ne sont pas responsables de ça, alors que c'est une évidence, et ne pas s'exprimer, c'est laisser entendre qu'il n'y aurait pas une solidarité des musulmans en France à l'égard de ce qui vient de se passer. Comment est-ce qu'on gère justement cette situation? Est-ce qu'il faut vraiment s'exprimer ou pas, ou plutôt se taire?
C'est sûr, il faut s'exprimer, mais surtout parler à nos co-religionnaires. L'imam doit parler. Nous-mêmes, moi-même, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je vais dire aux enfants, aux 300 enfants qui vont venir ce week-end-là. Parce qu'ils ont entendu que ces gens-là, ils ont prononcé le nom d'Allah et tout. Je dois faire d'ailleurs réunion avec les professeurs, mes enseignants, et voir qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants. On doit s'exprimer, on va faire de la pédagogie au niveau... bien sûr, avec les enfants qui viennent à la mosquée, qui fréquentent la mosquée.
Sans conteste pour vous. Je voudrais juste ajouter quand même trois faits qui se sont produits hier. Je vais les citer. Des tirs de grenades, d'exercice, dit-on, contre une mosquée au Mans vers minuit. Des coups de feu en direction d'une salle de prière à 20h hier soir à Port-la-Nouvelle, dans l'Aude. Et puis à Villefranche-sur-Saône, ce matin, la vitrine d'un kebab qui est soufflé et qui se situe juste à côté de la mosquée lui aussi. Est-ce que vous redoutez que ce type d'agression se multiplie?
Bien sûr, on redoute. D'ailleurs, on sera vigilants, nous, à la mosquée de Lyon. Demain, on pense à demain, comment ça va être pour la prière du vendredi. Et là, on fait appel aux médias. Il faut parler de ça aussi. Hein, parce que certains musulmans sont indignés ou sont en colère parce qu'on ne parle pas de tout ça aussi. Hein, donc il faut parler de ce qui s'est passé.
Vous voulez dire, dire que les musulmans sont discriminés, sont victimes d'actes, c'est ça que vous voulez dire.
Sont ciblés. Ouais. Oui, il faut parler de ces actes-là aussi.
D'accord, eh bien écoutez, c'est ce que nous faisons évidemment dans les journaux aussi. Merci, okay, merci d'avoir accepté d'être à nos côtés. Depuis ce matin, notre antenne est bouleversée par l'attentat qui est survenu hier à Charlie Hebdo. Vous avez pu entendre plusieurs voix, enfin les voix de plusieurs des victimes. Je vais quand même les citer encore toutes, en commençant par celle qui nous faisait rire tellement et qu'on connaissait vraiment. Wolinski, le patriarche, l'un des piliers de Charlie. Jean Cabu, créateur du Beauf, de la Grande Duduche. Stéphane Charbonnier, dit Charb, qui dirigeait le journal depuis 2009, Philippe Honoré, grand dessinateur s'il en est, Bernard Verlac, plus connu sous son pseudo Tinius, Bernard Maris, l'économiste, on va lui rendre hommage dans un instant, mais aussi des figures moins célèbres, Mustapha Ourad, correcteur chez Charlie Hebdo, Frédéric Boisseau, agent de maintenance, il travaillait pour la Sodexo, Michel Renaud, fondateur du festival Rendez-vous, carnet du voyage à Clermont-Ferrand, il était venu rendre tout simplement des dessins aux caricaturistes de Charlie. Enfin, deux policiers, Franck Brin-Solaro, qui avait pour mission de protéger Charb et qui en est mort, et Ahmed Merabé, qui était policier dans le 11e arrondissement à Paris. Alors, c'est important quand même de citer tous ces noms ce soir, car derrière la liberté de la presse, il y a évidemment des familles en deuil. Radio France avait choisi à la mi-journée d'honorer la mémoire de l'un d'entre nous, chroniqueurs, si souvent invités à France Culture, à France Inter, à France Info aussi, Bernard Maris, et vous étiez à cet hommage, Annabelle Grelier.
Pour accompagner une dernière fois leurs collègues.
Bernard, c'était un savant conteur. Ou un conteur savant, je ne sais pas quelle proposition il aurait choisi.
La voix émue de sa directrice à France Inter raconte le Bernard Maris de nos studios, de nos ondes. Chroniqueur économique de gauche, irrévérencieux et provocateur, Bernard Maris renvoyait la balle tous les matins au libéral Dominique Seux des Échos. Un numéro bien rodé, d'habitude de vieux compères.
C'est à peu près l'heure à laquelle chaque jeudi je l'appelais pour commencer à discuter du sujet qu'on pourrait aborder le lendemain matin en débat sur l'antenne d'Inter. On n'était pas forcément d'accord déjà sur le sujet à prendre. On débattait avant et après. On a appris à se découvrir. Moi, j'ai énormément appris de lui, ce qui est évidemment venant de la part d'un journaliste des Échos, ça peut paraître étrange. À l'antenne, très percutant, le sens de l'image, tout de suite, l'image qui frappe, l'image qui va parler à l'auditeur, que l'auditeur va retenir. Très difficile de passer après ça, d'aligner des arguments. Et puis, hors antenne, quelqu'un de très doux.
Bernard Maris était un économiste hors cadre, à l'esprit caustique, rare dans cette discipline. Se souvient le chef du service économie de France Inter, Philippe Lefébure.
Il y a 20 ans, à la fac, on a découvert ce monsieur qui écrivait sur l'économie de façon complètement différente. Alors, très... des thèses antilibérales, des montées, quoi, ça, tous les dogmes libéraux, mais c'était un ton surtout, quoi, les titres de ces bouquins, c'était des choses, ça parlait d'économie, mais ça parlait d'économie d'une autre façon, évidemment que la façon universitaire, mais même qu'on avait, moi j'avais pas de souvenir d'entendre quelqu'un parler d'économie de cette façon-là, quelqu'un qui reprenait tout à rebrousse-poil, qui savait aussi rire un peu d'économie, rire de tous ceux qui nous disent doctement ce qu'est la loi naturelle de l'économie, etc. Il y avait une partie de dérision, voilà, dans son analyse, et ça fait du bien. Bernard Maris, c'est ça pour moi.
Bernard Maris croyait de moins en moins en l'euro, détestait la société de consommation et la fureur du capitalisme. Sa voix manquera à ses confrères, à ses auditeurs et sur nos ondes.
Annabelle Grelier, merci. Et puis j'ai oublié, si on peut dire, dans la liste des morts tragiques d'hier, Elsa Kayat, qui était psychanalyste, psychiatre, qui avait sa rubrique, bien sûr, dans Charlie Hebdo, Charlie Divan. Elle avait 54 ans. Dans la douleur, la vie continue et Charlie Hebdo aussi. On l'a appris tout à l'heure, l'hebdomadaire va être tiré à 1 million d'exemplaires la semaine prochaine. L'édition fera 8 pages et non pas 16 comme d'habitude. C'est le quotidien Libération qui doit normalement accueillir ce qui reste de la rédaction de Charlie Hebdo en deuil demain matin. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir Tara.
Depuis hier, on sent un mouvement de solidarité très fort autour du journal lui-même. C'est un quotidien qui est en grande difficulté financière quand même. Charb avait lancé un appel de fonds en novembre dernier. dernier sans grand succès d'ailleurs. Et aujourd'hui, tout le monde se presse pour aider Charlie Hebdo.
Oui, les propositions d'aide viennent de toutes parts. Des médias d'abord, des IR, France Télévisions, Radio France et Le Monde ont offert leur soutien. Et la majorité des grands médias, Lagardère, RTL, France Média Monde et bien d'autres, les ont rejoints aujourd'hui. Une rencontre a lieu en ce moment même pour maintenant mettre en forme cet appui logistique et technique. L'aide est aussi financière. Vous le disiez, en difficulté depuis longtemps, Charlie Hebdo avait lancé un appel aux dons en novembre et depuis hier, d'autres soutiens sont apparus. Le fonds Presse et Pluralisme, qui permet de faire des dons défiscalisés aux médias, va débloquer autour de 250 000 euros. Le fonds Google pour la presse a lui aussi annoncé qu'il participerait à ces opérations. Les journaux vont faire de la promotion du numéro dans leur colonne. Quant aux distributeurs, ils devraient assurer la diffusion gratuitement. En somme, d'un bout à l'autre de la chaîne, la mobilisation est de mise et une aide publique est à l'étude. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Communication, Fleur Pellerin.
Je peux mobiliser des aides exceptionnelles pour aider financièrement Charlie Hebdo à passer ce moment extrêmement difficile. Et donc c'est ce que je suis en train de regarder avec mes services pour que donc le ministère puisse accompagner financièrement l'équipe et puisse faire en sorte que le journal paraisse à nouveau la semaine prochaine et puis celle d'après et puis encore celle d'après.
Et pour cela, Charlie Hebdo se met au travail dès demain. La petite équipe de survivants, selon les mots de l'avocat du journal, Richard Malka, rejoint demain matin les locaux de Libération. Il l'avait déjà fait en 2011 quand un incendie avait détruit leurs locaux. Ils pourront aussi compter sur l'aide de l'équipe de Ciné Mensuel qui depuis hier envoie des textes et des dessins.
Merci beaucoup Catherine Pétillon. On va partir un peu à l'étranger maintenant car depuis hier la France est au cœur de toutes les préoccupations de Tokyo à Washington, Moscou, au Qatar. Les responsables, les chefs d'État ont multiplié les messages de soutien à la France et exprimé leur répulsion. La France et la merveilleuse ville de Paris où cette attaque scandaleuse a eu lieu sont pour le monde une référence intemporelle. Elle demeurera bien au-delà de la vision haineuse de ces tueurs, a écrit par exemple Barack Obama. On est tous français, s'est écrié Matteo Renzi à Rome. À Londres, le Premier ministre David Cameron a dénoncé ces meurtres révoltants. Nous nous tenons aux côtés du peuple français. On pourrait continuer comme ça très longtemps. J'ajoute juste que les ambassadeurs arabes à Paris aujourd'hui ont tenu à dénoncer tous ensemble un acte barbare. Et on va partir justement d'abord en Algérie où il n'y a pas eu de grandes manifestations depuis hier, mais une véritable prise de conscience tout de même. C'est un reportage de notre correspondante Leïla Berato.
Pas de colère visible, mais des soupirs et des hochements de tête. Les journalistes de la Maison de la Presse d'Alger se disent choqués, mais ils expliquent qu'ils ont fini par prendre l'habitude qu'on leur annonce des morts.
Tous les gens de la Maison de la Presse, toute personne qui fait partie de la presse, ils condamnent cet acte. C'est arrivé déjà ici, en Algérie. C'est à la Maison de la Presse, à côté.
En 1996, une voiture piégée a explosé derrière la Maison de la Presse. Une explosion qui a soufflé la rédaction du Soir d'Algérie et fait 19 morts. Mais pour les journalistes d'ici, la France incarnait jusqu'à hier la sécurité. Méziane, 31 ans, journaliste à El Watan.
On se dit, c'est arrivé en France, alors là, en Algérie. Alors là, dans un pays comme le nôtre. C'est probable. Surtout pour un journal comme le nôtre, qui est connu de par ses positions, prises depuis très longtemps par rapport à l'islamisme politique. Donc on se dit que finalement, c'est-à-dire ce n'est pas seulement la liberté d'expression qui est en jeu, mais c'est aussi la pensée humaine, la pensée du journaliste. Sommes-nous obligés aujourd'hui de revoir nos positions? Moi je dis non.
Même constat pour ce jeune caricaturiste qui avait rencontré l'équipe de Charlie Hebdo il y a moins d'un an et qui regrette que le droit à la liberté d'expression soit encore menacé.
Et qu'on continue à tuer des gens juste pour leurs idéologies ou pour leurs avis ou parce qu'ils s'expriment par rapport à tel ou tel sujet, je trouve ça très, très grave. Nul n'est à l'abri. Apparemment qu'on soit à Paris ou à Alger ou à Washington, c'est pareil quoi.
Ce matin, l'ultime hommage de Dilem, le caricaturiste du journal Liberté, est un dessin, un homme à terre, abattu, écrit sur le mur avec son propre sang. Les cons m'ont tué.
Leïla Berato, en Algérie. Alors on va partir maintenant et ce sera notre dernière étape pour l'instant au Danemark où évidemment est née l'histoire des caricatures en 2005. On se souvient des 12 caricatures qui avaient été reprises ensuite par Charlie Hebdo. Bonsoir Pierre Benazé, vous êtes à Bruxelles.
Bonsoir Tam.
D'où vous regardez le Danemark? Alors y a-t-il une mobilisation en ce moment chez eux aussi?
Oui, il y en a une et elle est surtout visible dans la presse puisque tous les quotidiens danois font leur une aujourd'hui sur l'attaque contre Charlie Hebdo, en particulier les deux principaux qui publient tous deux leur une sur fond blanc. Berlingske avec un dessin où figure simplement le nom de Charlie Hebdo, criblé d'un pack de balles, et Politiken avec un crayon qui continue de dessiner bien qu'il ait été cassé. Pour sa part, Extra Bladet a carrément décidé de paraître aujourd'hui sous le nom de Charlie Hebdo et de son côté, Information est allé jusqu'à faire sa une uniquement en français avec le slogan « Nous sommes tous Charlie Hebdo » sur fond noir. Mais ce qui a le plus frappé les Danois aujourd'hui, c'est que le Jyllands-Posten est le seul à ne pas reproduire le dessin ou de couverture de Charlie Hebdo, bien qu'il s'étende sur plusieurs pages sur l'événement, sur la ligne éditoriale et sur les dessinateurs assassinés. La une de Jyllands-Posten est intégralement noire avec un simple texte au beau milieu. L'attaque terroriste nous rappelle que le monde libre a comme devoir commun de protéger la démocratie contre le fanatisme religieux dont les sikhs répandent la violence, la terreur, la répression sous couvert d'une prétendue légitimité divine. Ce quotidien du Jutland avait pourtant acquis cette renommée internationale avec les caricatures de 2005 et des critiques très nettes se sont élevées au Danemark contre le choix de Jyllands-Posten, un choix que le Parti libéral qualifie d'autocensure en affirmant que le quotidien était devenu un symbole de la liberté d'expression et qu'il avait aujourd'hui cédé devant les fanatiques.
Merci beaucoup Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Hervé Gardette, je vais vous céder maintenant la parole. J'ajoute peut-être juste que parmi les autres choses et événements qu'on aurait pu citer dans l'actualité, au Nigeria, il y a eu un très grand nombre d'attentats le week-end dernier. Il y a 16 villes et villages autour du lac Tchad qui ont été assaillis par Boko Haram et qu'on parle ce soir sans doute d'une centaine de morts dans cette attaque terroriste.
Voilà, merci Tara Schlegel. On poursuit donc cette édition spéciale jusqu'à 19h consacrée aux suites de l'attaque terroriste hier à Charlie Hebdo. Édition spéciale et journée spéciale. Je vous rappelle son intitulé sur France Culture, Parler contre la terreur. C'est ce que nous allons continuer à faire justement en posant cette question. Par où commence la lutte contre le terrorisme et quel discours opposer à ces actes terroristes? Comment en parler et comment en parler en fonction également des publics? C'est ce que nous allons essayer de faire avec nos invités à présent. Bruno Quatron, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef adjoint à Mon Quotidien. Enfin, je dis Mon Quotidien, en fait. C'est un ensemble de journaux qui sont destinés à la jeunesse. Le Petit Quotidien pour les 6-10 ans, Mon Quotidien pour les 10-14 ans et puis l'Actu pour les plus de 14 ans. Vous êtes évidemment sensibilisé à ce qui s'est passé hier, d'autant que Charb, qui fait partie des victimes des terroristes, était un des collaborateurs, il y a quelques années, extrêmement régulier de Mon Quotidien.
C'est lui qui avait créé la mascotte, les personnages de Mon Quotidien, Cotillon et Rognon. Donc oui, c'était quelqu'un qu'on connaissait bien et oui, du coup une dimension personnelle aussi qui nous a beaucoup touchés hier. Mais
c'est d'ailleurs la une hein, donc,
de Mon Quotidien,
du journal, voilà, que recevront voilà, vos abonnés demain. Et qu'on peut d'ailleurs, que vous avez mis d'ailleurs en ligne gratuitement.
Oui, on a mis les trois journaux en ligne. Tout au long de la journée, on a eu beaucoup de demandes d'instits, justement, qui devaient en parler en classe au moment de la minute de silence, etc. Et qui nous ont. Enfin, nous, on l'avait mis en ligne ce matin, de toute façon, mais qui nous ont envoyé des tweets et des mails après dans la journée pour nous dire merci parce que c'est un outil. Qui peut nous servir pour justement aborder ces sujets-là avec des enfants qui sont toujours un peu compliqués.
Alors vous nous direz justement dans quelques minutes comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous réfléchissez pour essayer de trouver les bons mots et les bonnes explications pour raconter ces événements aux enfants. Autre invité avec nous, Marwan Mohamed, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Vos recherches portent notamment... dire c'est un petit peu en vrac, mais enfin les jeunes, les banlieues, la délinquance, l'islam, si je peux me permettre voilà, d'englober vos recherches dans ces différentes appellations. Et puis, troisième invité qui se trouve au téléphone à l'étranger, à la frontière syrienne, mais du côté turc, à Gaziantep, c'est Nathalie Goulet. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez.
Bonsoir. J'espère qu'on va pouvoir se parler assez longtemps. Je ne suis pas dans les très bonnes conditions, mais... Croyez bien qu'on est tous très solidaires ici de la situation et tout le monde a présenté au gouvernement français et à ses élus que nous sommes des condoléances, même dans le camp de réfugiés syriens où j'étais cet après-midi.
Alors j'imagine bien qu'il y a effectivement cette émotion qui a traversé les frontières et en particulier pour les parlementaires que vous représentez ce soir. Je précise que vous présidez la commission d'enquête parlementaire sur les réseaux djihadistes. Alors c'est pas tant, et c'est à ce titre hein, que vous vous trouvez d'ailleurs aujourd'hui en Turquie. Oui. C'est pas tant sur la question des filières djihadistes que je voulais vous poser quelques petites questions, Nathalie Goulet, mais davantage sur, finalement, la réponse politique à apporter à ces actes. C'est-à-dire, quand on se pose la question de par où commence la lutte contre le terrorisme, on peut se dire que ça passe par la réaffirmation de certains principes. J'ai vu que, dans une interview à West France hier, vous disiez qu'il fallait un sursaut républicain. Moi, j'aimerais juste que, déjà, vous m'expliquiez qu'est-ce que ça veut dire, un sursaut républicain.
Mais ça veut dire éviter les amalgames, éviter le communautarisme, éviter les réactions brutales. Ça veut dire retrouver la citoyenneté. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que pourquoi tous ces problèmes et pourquoi ces djihadistes et pourquoi ces Français se convertissent pour partir lutter pour une raison très simple, c'est qu'ils ont perdu le lien de citoyen. Ils ont perdu le lien avec la République, ils ont perdu le lien de citoyen. Et ça, il faut le retrouver.
Mais ça veut dire que ça passe pas uniquement, Nathalie Goulet, par des discours. Évidemment, les discours et les prises de parole aujourd'hui sont importantes, mais ça veut dire que c'est aussi un travail de beaucoup plus longue haleine, un travail de fond pour recréer ce lien républicain.
Éducation et contre-discours. Éducation et contre-discours. Vous savez, tous ces gens ont quasiment aucune connaissance de leur religion, qu'ils dévoient complètement. Donc il faut arriver à ce que la communauté musulmane s'organise, à ce que tous ensemble, tous les démocrates, on puisse travailler à un contre-discours qui puisse contrer cette propagande insupportable qui arrive à séduire tous ces jeunes gens qui partent à la mort.
Mais ça veut dire pour vous, Nathalie Goulet, ce discours-là, il doit d'abord être porté par les représentants de ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est à juste titre ou pas, mais en tout cas la communauté musulmane. Mais est-ce que donner cette responsabilité-là finalement à cette communauté-là, ça n'est pas nier justement l'idéal républicain qui est qu'on ne s'adresse... Enfin voilà, c'est peut-être pas...
C'est un contre-discours qui doit être à tout le monde, mais c'est quand même bien au nom de cet islam dévoyé que tous ces gens agissent. Donc il faut bien que le contre-discours, si vous voulez, la propagande musulmane dévoyée qui sert à ces jeunes gens et leur façon de gérer ces notions du Coran et toutes ces notions totalement dévoyées au profit de cette idéologie terroriste doit être revue de façon à ce qu'on leur donne les bons arguments et qu'on leur explique qu'on les trompe.
Alors je voudrais faire réagir Marwan Mohamed sur cette question déjà du discours et du contre-discours à opposer. Quand on se pose la question, donc par où commence la lutte contre le terrorisme? Est-ce que ça commence d'abord par là, par une prise de parole claire, par l'éducation? Marwan Mohamed.
À mon avis, il y a plusieurs éléments. Dans le contexte actuel, depuis hier, il y a un premier temps de réponse. Parce que l'émotion est forte. J'ai traversé une bonne partie de la banlieue sud-est de la région parisienne. J'ai parlé avec des travailleurs sociaux toute l'après-midi qui sont en contact avec beaucoup de familles de plusieurs origines, de plusieurs quartiers de la ville en question. Et ce qui m'a été ressorti, c'est qu'il y avait un besoin de parler, il y avait une peur qui s'était installée. Et très symboliquement, cette personne-là me disait « On avait prévu dimanche une marche des femmes en ville ». De toutes les femmes de tous les quartiers de la ville et on reçoit beaucoup de coups de téléphone de personnes qui veulent plus venir. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de quoi? Elles n'ont pas peur d'un attentat en ville, mais certaines d'entre elles avaient peur de manifester aux côtés de femmes musulmanes. Voilà ce qui m'était dit. Donc quand Madame Goulet parle de lien politique, de lien de citoyenneté, je pense qu'on peut axer déjà la réflexion autour de ça, autour de deux choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'unité. On parle beaucoup, il y a beaucoup de principes qui sont avancés et qu'il faudrait retrouver. Il faudrait leur donner un contenu. Les définir. Quand on parle d'unité aujourd'hui, quand on parle d'unité nationale, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'une unité qui inclut ou d'une unité qui exclut? Il faut préciser les choses. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez terrible aujourd'hui, c'est que, bien sûr, il faut réagir. Bien sûr, il fallait fermer, réagir, marquer le pas, de mettre les drapeaux en berne. Certaines administrations ont fermé, mais ne se sont pas exprimées. On laissait les gens tout seuls, chez eux, à devoir se créer du sens, que ce soit avec leur crainte, que ce soit avec leur haine, que ce soit avec leur peur. Et je pense que d'entrée de jeu, si on pose la question comment est-ce qu'on veut lutter à long terme, il faut se poser déjà à court terme, quels mots on met sur les événements.
Donc c'est déjà un processus par étapes, c'est-à-dire il y a la première chose, c'est laisser parler les gens, enfin faire en sorte que les gens puissent s'exprimer, avant peut-être même que de leur opposer justement ce contre-discours.
Donnant du contenu. Quand on parle d'unité, on parle de quoi? Quand Madame Goulet a dit, à juste titre, pas d'amalgame, et éviter le communautarisme. Bien sûr, les amalgames alimentent du repli. Bien sûr que ça alimente de la tension, de la dispersion, de la fragmentation. Donc quand on dit ça, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Au-delà de ça, quand on parle d'unité, de qui on parle? Qui est concerné par cette unité-là? Voilà.
Et Nathalie Goulet, est-ce que, puisqu'on évoque finalement les différents temps des modes de réponse qui peuvent être apportés, dans un temps beaucoup plus long, vous évoquiez la question de l'éducation. Est-ce que ça veut dire qu'il faut revoir les politiques d'éducation et peut-être même un certain nombre de politiques sociales pour essayer de se dire au moins ceux qui ne sont pas encore des individus radicalisés ou qui ne sont pas des individus dangereux, faisons au moins en sorte que ceux-là n'aillent pas vers ces dérives-là?
Mais écoutez, vous comprenez bien que en dehors de la réaction et du problème sur lequel on travaille dans notre commission d'enquête, dont on a besoin, parce qu'on a toutes les pièces du puzzle, vous voyez bien qu'il y a des ratés de l'intégration, vous voyez bien qu'il y a des zones de non-droit, vous voyez bien que tout ça est d'une complexité extrême, que vous n'avez pas qu'un seul profil, que vous avez des gens qui agissent tout seuls, que vous avez aussi des réseaux, vous voyez bien qu'il y a tellement de paramètres qu'on peut pas aujourd'hui faire une ordonnance. On peut essayer de s'arrêter une minute et de réfléchir ensemble dans cette espèce de sursaut national républicain qui est en train de se passer, parce qu'on se rend bien compte de la dangerosité de tout cela pour notre démocratie et pour la République et pour tous les citoyens. Vous voyez, donc si on avait un profil, si on avait un paramètre et si on avait une ordonnance, croyez bien que ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. Quoi qu'il en soit, la réponse uniquement répressive n'est pas suffisante. Elle ne réglera pas le problème.
Merci beaucoup en tout cas Nathalie Goulet d'avoir pris quelques instants pour réagir sur l'antenne de France Culture. Nous a rejoint par téléphone un nouvel invité, il s'agit de Yanis Roder, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant en histoire et géographie dans un collège en Seine-Saint-Denis. Vous êtes par ailleurs, je crois, formateur, ou en tout cas vous encadrez des formations au mémorial de la Shoah. On souhaitait vous faire intervenir aujourd'hui parce que vous aviez cours avec vos élèves ce matin et peut-être également cet après-midi. On a eu l'occasion de discuter un petit peu à la mi-journée ensemble. Vous me disiez qu'en fait, voilà, les cours que vous aviez prévu de faire étaient totalement impossible à faire, quand bien même vous l'auriez souhaité, puisque les élèves n'avaient envie de parler que de ça. Et on le comprend d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Les élèves sont arrivés ce matin demandeurs. Vraiment avec une demande d'explication, mais une demande d'expression aussi. Et nous le savions parce qu'à 8h ce matin, le chef d'établissement a réuni son équipe de profs en disant qu'il y avait des consignes qui émanaient du ministère, puis du rectorat, qu'il fallait, si la demande était faite par les élèves, parler de cela avec les élèves. Je me suis fait une réflexion ce matin dans la salle des professeurs. J'avais l'impression d'assister à un briefing avant de partir au front, en réalité. Et finalement...
Quand vous dites au front, c'est-à-dire d'aller affronter des élèves?
Oui, bien sûr, d'aller affronter des élèves. Alors, pas la majorité, mais nous avons dû affronter des élèves ce qui s'est passé hier était tout à fait légitime, était tout à fait normal. Il ne fallait pas dessiner. Des élèves ont pu dire ainsi que les caricaturistes auraient dû aller en prison, qu'ils ont été tués. C'est bien fait pour eux. Voilà, des remarques de gosses, mais des remarques exprimées tout à fait normalement et qui se sentaient des remarques d'élèves qui se sentaient légitimes à exprimer cela.
Alors, et comment est-ce que vous, par exemple, vous gérez ce genre de questions et ce genre de remarques? Alors, c'est vrai que vous êtes peut-être plus habitué justement à traiter de ces sujets dramatiques. Hein. Je rappelle donc de par vos réflexions que vous pouvez avoir sur l'enseignement de la Shoah, mais est-ce que c'est plus ou moins les mêmes techniques? Enfin, comment est-ce qu'on répond en tout cas à ce genre de remarques d'élèves?
Oui, ce sont les mêmes techniques. C'est-à-dire que quand un élève dit voilà, c'est normal, il faut reformuler ce que dit l'élève. Tu es en train de nous expliquer donc que parce que quelqu'un a fait un dessin, il est tout à fait normal qu'on lui mette une balle dans la tête. Et là, vous lancez la réflexion que le gamin n'a pas eu nécessairement parce qu'il a réagi, il a réagi avec les tripes, on va dire, avec les croyances qui sont les siennes, et on sait combien dans certaines banlieues, ces croyances sont importantes et rythment la vie de beaucoup. Donc, c'est reprendre ce qu'ils disent et démonter au fur et à mesure les propos, quand on peut le faire, parce qu'il y a des élèves qui ne bougent pas de leur position, c'est-à-dire que pour eux, on ne peut pas dessiner le prophète de l'islam, c'est inadmissible, et ces gens ont payé, et c'est bien fait. Là, voilà, c'est aussi une réalité. Vous savez, les milliers de tweets ou les discours sur Facebook, vous les retrouvez en classe aussi.
Marwan Mohamed, vous qui travaillez dans le cadre de vos recherches, notamment au contact de jeunes, est-ce que vous vous retrouvez justement confronté à ce que peut nous expliquer là Yannis Roder?
Oui, il y a des discours qui sont, mais pas seulement sur cette question-là, on retrouve des discours qui sont hors sol. Hors réalité.
Et qu'il faut laisser s'exprimer ?
Non, mais justement, qui est là, ils sont face à un enseignant. Mais qui est là dans ces interstices de la vie sociale ? Parce qu'on parlait tout à l'heure de réorganiser ou de mobiliser les responsables du culte aujourd'hui. Mais je veux dire, ces parcours-là ne se construisent pas dans les mosquées. Elles ne se construisent pas avec les parents. Ça se construit dans les interstices, dans ces espaces-là, intermédiaires, finalement hors contrôle, branchés sur le numérique, les travaux sérieux qui se sont intéressés à la question du djihadisme montrent bien qu'on est face à des personnes qui sont ni dans l'institution, qu'elle soit culturelle ou autre, ni dans un espèce d'héritage familial qui serait fort. Les parents sont surpris de ce qui se passe et au niveau des mosquées, sont sommés de se désolidariser comme s'ils avaient été solidaires de quelque chose. À mon avis, il y a quelque chose qui relève du maillage de nos quartiers, de l'encadrement de notre jeunesse, dans l'école et hors de l'école, de la question de l'éducation populaire telle qu'elle s'est posée pendant un certain nombre d'années, de la présence adulte dans ces lieux-là et du développement de nouvelles approches éducatives qui prennent en compte la donne numérique. Ce que dit cet enseignant, je l'ai lu sur Internet, j'ai pu l'entendre avec des versions complotistes. Mais de là doit commencer un travail. Là doit commencer un travail parce que ça s'exprime maintenant.
Alors je vais vous faire réagir dans un instant à nouveau Yannis Roder, mais je voudrais quand même qu'on revienne à Bruno Quatrone qu'on a très peu entendu depuis le début. Donc je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint du groupe de presse Mon Quotidien, si vous permettez qu'on l'exprime comme ça. On se rend compte effectivement, aujourd'hui il y a besoin de médiateurs, ça passe par l'éducation nationale mais pas uniquement, ça passe aussi par nous les médias. Je dois dire, quand on a réfléchi un petit peu au thème de l'émission de ce soir, moi, ça a été notamment provoqué par une discussion que j'ai pu avoir hier soir avec mes enfants, qui sont deux adolescents, qui sont au collège. Hier soir, il était inenvisageable pour eux, et y compris pour leurs parents, de parler d'autre chose. Mais ils posaient des questions et c'était extrêmement compliqué, finalement, de trouver les mots pour leur répondre. Est-ce que vous, à Mon Quotidien, vous avez travaillé de manière particulière sur les numéros que vous proposez demain, ou bien est-ce que, justement, le fait de... d'être habitué à parler à un public jeune, ça vous a aidé à trouver les mots justes et pertinents, disons.
Ouais, on a une particularité. On est quotidien, mais on est vendu que par abonnement. Donc, on ne paraît pas le lendemain, mais le surlendemain des événements. Donc, en l'occurrence, le journal qu'on a fait hier, c'est le journal que les enfants recevront demain matin. Et ce qui veut dire qu'on est toujours obligé de chercher des angles qui apporte un petit peu de réflexion. On ne peut pas être dans l'émotion pure. Donc là, par exemple, surtout pour les journaux, pour les plus petits, on s'est vraiment dit, c'est ce qu'on fait en général dans ce genre de cas, il faut repartir, effectivement, de ce que vous disiez, des mots. Il faut être précis dans ce qu'on va dire, donc utiliser les bons mots pour éviter les amalgames, pour éviter les ambiguïtés, les incompréhensions, sachant que c'est un travail très, très humble, parce qu'en réalité... Oui, on va rappeler le numéro qu'on a fait dans le Petit Quotidien. Il y en a un qui rappelle ce qu'est la liberté de la presse. L'autre, le numéro qu'on fait aujourd'hui, qu'on est en train de boucler aujourd'hui, c'est « Comprends pourquoi c'est toute la France qui a été attaquée ». Donc on rappelle les valeurs de la République, la laïcité, la liberté, la démocratie, etc. Je pense qu'il faut revenir à ces grandes notions-là. Simplement, c'est pas forcément les gens qui vont nous lire. Bon, bah, tant mieux. Enfin, si ça peut lever des ambiguïtés et éviter les amalgames, c'est bien. Après ça, je suis pas, malheureusement pas sûr qu'on va toucher les gens qui auraient besoin d'être touchés. Enfin, c'est tout le problème.
En tout cas, donc vous apportez des réponses et disons des éléments d'explication. Mais quels sont les moyens que vous avez pour connaître les questions que se posent véritablement vos lecteurs aujourd'hui?
Là, en l'occurrence, aujourd'hui, on est allé les rencontrer. C'est-à-dire qu'on a eu des instits, on a eu des enfants, des écoliers, des collégiens, des lycéens. On leur a demandé ce qu'ils voulaient savoir. Enfin, on leur a posé des questions et on a essayé d'y répondre. Mais donc pour les plus petits, on essaye vraiment de repartir des grands principes, des grandes bases, des grandes notions de lutte contre le racisme, d'expliquer ce qu'est l'islamisme, ce qu'est la religion musulmane, de bien différencier les choses. Pour les plus grands, après ça, on en a très souvent qui viennent à la rédaction, donc on essaye de les interroger pour savoir ce qu'ils ont envie de savoir. Mais je pense qu'il faut vraiment à chaque fois qu'on reparte de valeurs assez fondamentales et essayer de les expliquer avec des mots simples. C'est aussi un outil pour les parents. Après ça, si on peut servir un petit peu de lien, enfin c'est pas facile de parler de ce genre de sujet. Donc si ça peut aider les instits en classe, les enseignants en classe, les parents en parler chez eux, c'est notre rôle, quoi. Enfin,
ça peut aider justement Yannis Schroeder d'avoir ce genre de support pour parler, pour s'adresser et répondre aux élèves en classe.
Écoutez, oui, tous les supports sont les bienvenus. En même temps, je crois que le meilleur support, c'est le savoir des enseignants. Et c'est vraiment la faculté à pouvoir transmettre ce savoir, d'abord dans une relation de confiance avec les élèves, dans une relation affective qui n'est pas évidemment toujours affirmée et qui est souvent inconsciente, du moins de la part des élèves. C'est ce qui permet déjà d'avoir un dialogue. Et donc de parler sereinement. À partir du moment où il y a tension entre la classe et le prof, tout de suite sur ces questions aussi difficiles de ce carnage d'hier ou encore de l'affaire Mera il y a 2 ans, où nous avions nous à ce moment-là connu des problèmes lors de la minute de silence. Donc rien de nouveau pour nous aujourd'hui, ce matin. À partir du moment où nous avons un climat de sérénité, on peut aborder absolument toutes les questions et les supports tels que Mon Quotidien ou d'autres sont évidemment les bienvenus pour discuter. Mais il faut savoir que vous avez parfois face à vous des élèves qui ne démordent pas de leurs propos. Vous pouvez leur parler de démocratie, de liberté, de racisme, etc. Mais je pense à cet élève ce matin qui m'a dit qu'il est incapable de se décentrer en me disant « Moi, ces gens-là, je m'en fous, ça ne me concerne pas, c'est pas moi, ils n'avaient qu'à pas toucher le prophète, je cite, ils n'avaient qu'à pas toucher le prophète, moi, ça ne me concerne pas, je m'en fous. » Ou cet élève, une autre, par exemple, qui dit « Mais sur le policier qui a été assassiné à terre, ce sont des vendus qui oublient leurs racines et qui s'intègrent dans votre république. » Vous avez ça. Donc vous pouvez toujours essayer, par un discours qui peut apparaître moralisateur parfois, de parler de démocratie, de liberté, de lutte contre le racisme. Quand vous êtes face à cela, eh bien, il faut essayer de déconstruire le discours sans agressivité, sans donner l'impression de faire une leçon de morale moralisante, et de prendre les mots un par un, et de leur donner la signification première, d'expliquer vraiment à ses élèves ce qu'implique ce qu'ils disent.
Marwan Mohamed.
Je veux juste dire que les discours moralisateurs, quelle que soit la morale, gagnent de la puissance quand ils résonnent avec une expérience. Et ils en perdent quand ils résonnent avec une expérience qui est jugée négative. On ne peut pas faire l'économie de l'analyse de l'expérience de ces mômes qui, par provocation, par surenchère ou par conviction, ça reste encore à distinguer, parce que ça aussi, je veux dire, la
par
classe...
Ignorance.
Ou par conviction, hein, c'est possible. Certains qui le pensent, mais il y en a aussi qui profitent de ces moments-là pour faire parler d'eux. Donc voilà, essayer de dépasser le moment de la classe pour peut-être être en tête-à-tête et voir ce qu'il en retourne vraiment sans public, Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie d'une analyse. Quand on avance l'idéal républicain, quand on avance les principes démocratiques, etc., ils sont réinterprétés en fonction d'une expérience. Quelle est l'expérience de ces mômes-là? Quelle est leur perception de ces principes-là? Comment est-ce qu'ils ont le sentiment d'être considérés? Se considèrent-ils comme légitimes ou pas? Et j'en reviens à ma première question. On est vraiment à un moment vérité, là. Il y en a des moments vérité. On est vraiment à un moment vérité. Est-ce qu'on va parler d'une unité, c'est-à-dire qui se base sur l'idée de reconnaissance, ou bien est-ce qu'on va rester dans un discours de défiance qui se fait très entendre, enfin qui se fait beaucoup entendre en ce moment?
Alors justement, qu'est-ce qui va se passer maintenant et comment réagir? On peut aussi essayer de voir dans d'autres pays qui ont peut-être été confrontés par le passé à des problématiques assez proches. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe désormais? Nous sommes justement en ligne avec notre correspondant permanent à Londres, Franck Mathevon. Bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Alors comment ça se passe ailleurs? Il faut se souvenir qu'il y a presque 10 ans, c'était le 7 juillet 2005, il y a eu des attentats dans les transports publics à Londres qui avaient fait 56 morts. Les 4 kamikazes, c'était des citoyens britanniques qui avaient toujours vécu au Royaume-Uni, issus de familles issues du Commonwealth. Alors à l'époque, évidemment, on n'a pas parlé de sursaut républicain, puisque ce n'est pas le modèle sur lequel a été bâti le Royaume-Uni, mais c'était plutôt le modèle multiculturel qui, là, a été ébranlé, Franck Mathevon.
Oui, en effet, c'est la critique contre le multiculturalisme qui s'est accentuée à ce moment-là. La réflexion avait commencé déjà avant, hein, avec le New Labour, mais là, elle s'est vraiment renforcée par Tony Blair d'abord, puis par Gordon Brown. Alors, on a commencé, vous savez, à cette époque, à parler de Britishness, d'identité britannique. On pourrait peut-être traduire ça par britannitude, hein, même si c'est pas un très beau mot. Il s'agit de trouver des valeurs communes à tous les Britanniques, d'éviter le repli communautaire. C'est une chose dont on discute en France depuis longtemps, l'universalisme à la française contre le multiculturalisme au Royaume-Uni. La Grande-Bretagne a par exemple voulu arrêter de financer des groupes susceptibles d'entretenir le repli sur soi. Et David Cameron, lui, est allé encore plus loin en 2011. Il a estimé que le multiculturalisme d'État avait échoué. Il a alors accusé des organisations musulmanes de jouer un double jeu, de promouvoir des discours de haine au nom de la liberté de parole. Voilà, c'est pour cette raison que le multiculturalisme n'a jamais autant été remis en question, sans doute, dans le pays.
Il est remis en question, mais est-ce qu'il est remis suffisamment, justement, pour être complètement effrité? Ou bien est-ce que ça reste encore quelque chose qui est tellement fort dans la société britannique que faire émerger une forme d'identité nationale, cette Britishness, dans le pays est particulièrement compliqué au regard de l'histoire?
Oui, indéniablement, c'est compliqué. On est encore très loin du modèle républicain français. Pas question ici, par exemple, même si un débat émerge à ce propos, d'interdire le voile intégral dans l'espace public, hein, comme en France. Donc le modèle multiculturaliste anglais est encore fort, mais il s'effrite, comme vous le dites, hein, c'est le mot adéquat.
À travers des programmes qui sont mis en place, il y a une stratégie, alors c'est la stratégie Prevent, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a des stratégies en parallèle qui sont mises en place pour éviter la radicalisation des jeunes musulmans. Hein. Vous vous souvenez que Londres a été surnommé le Londonistan au début des années 2000. Alors, ça a changé beaucoup depuis. Le Labour, puis les conservateurs, ont appliqué une stratégie antiterroriste pour éviter que les appels à la haine se propagent. Effectivement, l'un des piliers de cette stratégie, c'est le volet prevent, la prévention. Alors, il s'agit de se rapprocher du terrain, des associations, pour identifier les personnes vulnérables, pour éviter la radicalisation de certains individus. Les Britanniques essayent aussi de parler aux communautés musulmanes. Par exemple, Londres dit aux musulmans qui souhaitent partir en Syrie, pourquoi pas, mais tournez-vous alors vers l'action humanitaire, choisissez plutôt l'humanitaire. On va aussi avoir un discours destiné aux familles. Si votre enfant est fragile, s'il a de mauvaises fréquentations, prévenez-nous, on essaiera de vous aider. Voilà ce qu'on entend et voilà en gros l'essentiel de cette stratégie Prevent.
Merci beaucoup Franck Mathevon. Je rappelle, vous êtes correspondant de Radio France à Londres. Marwan Mohamed, on peut aussi peut-être s'inspirer de ce qui peut se passer, notamment au Royaume-Uni, même si les modèles sont différents, mais en tout cas les modes d'action. D'ailleurs, il y a une commission parlementaire justement qui devait, je ne sais pas si ça sera toujours le cas, mais se rendre en Grande-Bretagne la semaine prochaine sur ces questions-là précisément.
D'abord, il faut faire attention à ne pas trop se crisper autour de la notion de modèle. C'est une abstraction de parler de modèle, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il y a des configurations, il y a des choses sur lesquelles on est très proches, les deux pays. Il y a des choses sur lesquelles on est très différents. Mais d'opposer deux modèles comme ça, ça fait longtemps que la recherche a dépassé cette notion de modèle ce système d'opposition.
Si ce n'est que dans le discours politique, c'est le modèle, alors là, en l'occurrence, républicain, qui est mis en avant aujourd'hui en France pour dire, voilà, il faut aussi restaurer ce modèle-là.
Mais même
si... je comprends tout à fait que du point de vue du chercheur, ça ne veuille pas dire grand-chose.
Non, mais je veux dire, c'est important parce que les mots ont, leur, ont du sens. Et dans notre contexte de forte émotion, les mots peuvent être encore plus puissants, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on appelle le modèle républicain? Vous avez posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on appelle notre modèle de laïcité? La laïcité change beaucoup depuis le début des années 2000. Et tout le monde n'a pas la même conception de cette notion-là. Donc il y a un vrai débat actuellement. Mais je veux revenir à votre question de départ. L'axe fort de la réponse de la Grande-Bretagne, du gouvernement, ça a été quand même de penser le maillage et de repenser le maillage, non pas dans une logique de défiance d'une islamophobie diffuse, des injonctions à la désolidarisation, mais de repenser le mariage dans une notion, à travers une notion de partenariat, c'est-à-dire d'interconnaissance, de reconnaissance, afin d'avoir une approche qui soit un petit peu pragmatique. Aujourd'hui, en France, on en est plus dans les injonctions et les discours.
Voilà, en tout cas, c'est ce travail de fond qu'il faut en réaliser. On n'est plus dans les discours, mais en tout cas, on est dans le choix des mots. Bruno Catroni, est-ce qu'il y a des mots que vous vous interdisez sur ce qui vient de se passer, d'utiliser par rapport au public auquel vous vous adressez? J'étais assez surpris de voir que, par exemple, dans l'actu qui s'adresse aux ados, donc ont plus de 14 ans, alors, ce ne sont pas des mots, mais en tout cas, c'est un dessin. Vous republiez un dessin de Charb, c'est un de ces derniers, hein, toujours pas d'attentat en France. On voit un djihadiste qui dit « Attendez, on a jusqu'à la fin janvier pour présenter ses vœux ».
Oui, mais ceci, vous savez, on a eu des enfants de 9 ou 10 ans qui nous ont parlé de ce dessin, qui l'avaient vu, qui l'avaient compris, enfin, Non, on s'interdit aucun mot, on essaye de les expliquer. Enfin, donc on va employer les mots djihadistes, musulmans, islamistes, etc. pour justement essayer d'être le plus précis possible et que les lecteurs ne mélangent pas tout, ne fassent pas d'amalgame. Encore une fois, si ça peut après ça aider un petit peu la lecture dans la famille, la compréhension des mots dans la famille, on a très souvent des parents qui nous disent ensuite... ça nous a aidé, même nous, à comprendre ces notions que beaucoup de gens adultes ne saisissent pas bien. Quoi.
Et on n'est évidemment pas épuisé le sujet de la pédagogie qu'il faut mettre en place pour répondre à ces actes terroristes. On poursuit. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission et à cette journée, surtout spéciale, qui se poursuit. Parler contre la terreur.